C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour. À la lecture des rapports présentés lors de la 13e conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se déroule actuellement à Cancun au Mexique, je me dis que les documentaires tournés par les élèves de l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Minigout sont des archives. Cerise Maréchaux nous emmènera dans la deuxième partie de l'émission sur les bancs de cette école particulière située dans l'ouest de la France. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss l'a écrit il y a longtemps, l'ensemble des coutumes d'un peuple forme des systèmes qui sont la base de leur fonctionnement. C'est ce qu'il appelait la science du concret, une science longtemps méprisée parce que non écrite. Mais face à la disparition massive de la biodiversité, les savoirs traditionnels des populations locales, leur connaissance fine de leur environnement et de son fonctionnement intéressent de plus en plus les scientifiques. C'est le cas au cœur du Pacifique, en Polynésie.
Je suis Frédéric Torrent, je suis anthropologue au Centre de recherche et observateur de l'environnement dans l'île de Moorea, donc près de Tahiti.
Nous sommes là sur l'île de Moorea, dans une vallée bien particulière, sur un site bien particulier.
Oui, nous sommes donc au centre, au cœur de l'île, au centre du cratère de Moorea, dans la vallée de Opunohu, qui est donc une vallée qui occupe pratiquement tout le centre de l'île et qui était une vallée autrefois très très habitée.
Et qui a beaucoup de sites sacrés.
Oui, alors dans cette vallée, il y a à peu près 500 sites archéologiques, 500 structures recensées. Cette vallée donc était contrôlée par des chefs polynésiens qui en fait exploitaient les conditions naturelles de la vallée, qui sont caractérisées par une hygrométrie extrême, donc une pluviométrie assez importante, et donc qui produisait une fertilité très poussée. Et donc il y a énormément de terrasses de culture. Et bien sûr, il y avait tout un tas de sites cultuels qui correspondaient donc à ces terrasses agricoles.
On n'a pas de mal à imaginer, en effet, le taux d'humidité, puisqu'on le ressent bien. Là, on est au cœur d'une forêt, pour simplifier, qui ressemble un peu à l'image que l'on a de la jungle. Et on est face à un de ces sites cultuels. Comment ça s'appelle et est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Oui, alors là, nous sommes face à ce qu'on appelle en Polynésie un marae. C'est-à-dire un site qui est à la fois un site non seulement religieux, où on pratique des rites religieux, mais également un ensemble qui va favoriser la connexion avec les dieux et les ancêtres de toute la communauté. C'est-à-dire que c'est un espace avant tout social et un espace qui va légitimer le pouvoir des chefs polynésiens, les Ari'i. Donc cet espace est vraiment un espace sacré, on dit tapu en Polynésie, c'est-à-dire que c'est à la fois interdit pour les gens du commun, mais à la fois sacré également.
Alors, à la radio, on n'a pas l'image, donc il faut décrire un petit peu ce site sacré et donc dans cette forêt magnifique. C'est un grand rectangle de 25 mètres sur 8, tout en pierre. Est-ce qu'on peut décrire ce lieu?
C'est tout simple. On va dire que les temples des Polynésiens étaient des temples à ciel ouvert, constitués donc d'une base en pierre. Et puis de tout un tas de structures qui ont aujourd'hui disparu, puisqu'elles étaient en végétal, tout un tas de petites maisons qui étaient sur le site même, qui contenaient les images des dieux, etc. Et vous avez aussi une architecture particulière qui varie selon les archipels. Ici, nous avons un ensemble, une espèce de petite pyramide avec 3 degrés, qui correspond, dans l'image de la religion ancienne, aux couches du ciel dans lesquelles les dieux résidaient.
Là, on arrive donc à la vision du monde, finalement, qu'avaient les Polynésiens de manière traditionnelle, une vision du monde qui était complètement liée à leur rapport, à leur environnement, qui est un environnement très particulier, évidemment. Ce sont des îles, la mer, la terre, le ciel, tout ça est lié.
Oui, alors justement, les Polynésiens, à la différence de la vision européenne, ont une vision holistique de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils conçoivent leur environnement comme un ensemble d'éléments qui font partie d'un tout. Notamment, il n'y a pas de séparation, comme en Europe, entre nature et culture. La nature, qui n'existe pas en polynésien, puisque le terme a été inventé, natura, pour coller aux concepts occidentaux, cet environnement, on va dire, est un ensemble cohérent de choses qui sont liées généalogiquement. Le soleil, par exemple, et la lune sont liés, les éléments de la nature, les éclairs, la foudre, tous ces éléments-là sont liés généalogiquement dans une immense généalogie. Et en fait, l'homme occupe une petite place en fait, dans ce continuum. Au plus haut, les dieux, au plus bas, les ancêtres qui sont vraiment stratifiés au plus bas de la Terre vers le monde des origines. Le monde des origines est essentiel puisque les origines du monde polynésien sont situées au plus profond des océans, à la base de ce qu'on pourrait appeler une spirale qui va remonter petit à petit vers la surface où on va aller vers la lumière et vers la vie.
C'est une vision du monde en spirale ?
Oui, on pourrait parler de spirale étant donné que l'espace et le temps sont confondus, hein, puisque quand on va aller au plus bas de cette spirale, on va au plus bas des origines, et dès qu'on remonte à la surface, au plus large de la spirale, dans le temps présent, eh bien là, on va se retrouver à la surface et dans la vie actuelle, le monde de la lumière dans lequel on vit aujourd'hui.
Et quand on arrive en Polynésie, on est accueilli par un collier de fleurs qui nous entoure. Ça, on le voit partout. Les fleurs jouent un rôle extrêmement important dans la vie polynésienne. On voit les femmes avec des couronnes fantastiques, toujours des fleurs dans les cheveux. Il y a un vrai art de ça. Est-ce que ça a une origine sacrée ?
Tout d'abord, déjà, le monde végétal est un monde qui est extrêmement important pour les Polynésiens, qui sont d'abord à l'origine des migrants océaniques, donc qui sont sur des pirogues. Et dès qu'ils vont découvrir une terre, l'obsession, quand on aura pris possession de la terre et qu'on l'aura nommée, qu'on aura installé son groupe, eh bien, c'est de planter les plantes qui ont été importées dans les pirogues pour pouvoir recréer son monde dans chaque île qu'ils vont rencontrer. Alors, en ce qui concerne le fait d'encercler les choses, eh bien, c'est effectivement dans la religion polynésienne ancienne, ça correspondait à un rite particulier qui correspond à un système d'enveloppement du sacré. C'est un peu un système de poupée russe.
C'est-à-dire que le plus sacré est au cœur, et après c'est un peu comme un oignon, finalement, il y a des couches.
Oui, absolument. Et en fait, c'était destiné à protéger. C'est un petit peu à quoi correspond le mot tapu. Hein. Tapu, c'est vraiment isolé d'un contact profane et protéger ce qui est sacré. Donc quelque chose de tapu, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est sacré.
On est donc dans cette forêt, mais on est entouré, dès qu'on lève un peu la tête, de grandes aiguilles en basalte, en pierre de lave. Ce sont les anciennes parois du volcan, finalement. Et ces parois sont sacrées, enfin en tout cas le haut.
Oui, alors toutes les chefferies polynésiennes sont organisées suivant le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a un territoire qui est délimité, il y a un site sacré au milieu, et de ce site sacré correspond une montagne qui est elle-même une référence sacrée puisqu'elle est la plus près des dieux. Alors ici, nous sommes en face du mont Rotui, qui est en fait une montagne, on va dire, sacrée par laquelle étaient censés se cheminer les esprits des morts. Cette âme du mort, enfin en tout cas l'esprit du mort, le varua, était censé donc se détacher du corps et cheminer, avoir un cheminement propre. Si l'esprit était à Tahiti, il passait par un endroit particulier et puis il sautait sur cette montagne que vous voyez là, le mont Rotui à Moorea, et puis après il ressautait de l'autre côté sur la montagne sacrée de Raiatea, qui est un petit peu conçue comme le centre du monde polynésien, enfin en tout cas à une certaine époque. Et ce mont Temehani à Raiatea était vraiment le lieu où l'âme soit allait vers un séjour paisible, soit elle allait vers un séjour un petit peu correspondant à celui de l'enfer chrétien. Et donc effectivement, c'est un petit peu le centre d'un réseau politico-religieux ancien qui s'appelait le réseau Taputapuaatea. C'est un petit peu la liaison de tous les peuples du Pacifique, notamment les peuples polynésiens.
Quand est-ce que la Polynésie a commencé à être habitée ?
Le peuplement initial des archipels est assez difficile à déterminer. Les schémas classiques montrent un peuplement initial vers les îles Marquises, hein, autour de 400 après Jésus-Christ. Hein.
Et d'où venaient ces marins ? C'est une épopée extraordinaire, ça.
Oui, alors là aussi, il y a eu de grandes théories qui ont animé toutes les équipes d'océanistes. Hein, depuis des centaines d'années. Dans les années 50, les scientifiques voulaient montrer que les Polynésiens venaient d'Amérique du Sud. Alors il y a eu des expéditions avec des radeaux de Balsa qui étaient construits par Torrey Hardal notamment. Et puis effectivement, ils ont atteint les Tuamotu en radeau depuis les côtes péruviennes pour montrer que c'était possible de venir du Pérou. Aujourd'hui, ces théories sont un petit peu contrebalancées par tous les moyens scientifiques que l'on a aujourd'hui, toutes les disciplines, qui présente le peuplement de la Polynésie comme l'inverse, en fait, venant d'Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, la linguistique, la génétique, tout ça, va dans le même sens.
Comment est-ce qu'on peut, même schématiquement, détailler ce périple ?
Oui, alors ce périple, il commence il y a très longtemps, il y a 38 000 ans, à partir du moment où, à la fin de la glaciation, toutes les terres qui se trouvent vers l'archipel de Bismarck, c'est-à-dire vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était un continent, vont s'avérer être des îles, puisque l'eau va monter à la fin de la glaciation. Et donc ces gens qui étaient chasseurs-cueilleurs vont se retrouver finalement sur des îles, et il est montré qu'ils ont commencé à inventer des radeaux, donc les premières navigations préhistoriques, hein, pour commencer à aller explorer un petit peu, aller justement contre ce vent. Donc après il y a tout ce qu'on appelle les austronésiens, ce peuplement austronésien qui va donc peupler tout le Pacifique qui correspond à la Mélanésie, puis après l'archipel des Tonga Samoa, où là, à cet endroit-là, va s'individualiser en fait la civilisation polynésienne, proprement parlée. Et il va y avoir une grosse pause de 600 ans, où à partir de là, eh bien, les migrants vont commencer à peupler la Polynésie orientale.
Pour revenir à la vision du monde basée sur les croyances, est-ce qu'aujourd'hui, dans la population polynésienne, malgré la colonisation, malgré l'évangélisation, il y a encore des signes de cette connexion à l'environnement de la part des Polynésiens ?
Ah ben, cette connexion, elle est essentielle, elle est même capitale. Et elle commence tout d'abord par l'enracinement profond des Polynésiens à leur terre, enfin ça c'est même des Océaniens, mais aujourd'hui il y a un rite qui est encore pratiqué, c'est le rite d'enterrement du placenta, hein, qui est encore pratiqué aujourd'hui dans toutes les familles polynésiennes, et ce rite est censé justement attacher le nouveau-né à sa terre. Ça c'est l'attachement profond du Polynésien à sa terre, et au niveau de la religion ancienne, il y a forcément, même malgré la christianisation, il y a forcément des formes qui continuent à agir, et notamment tous les rites anciens liés à la pêche, hein, à la mer, au monde marin, qui sont encore aujourd'hui des rites païens, qui sont encore aujourd'hui pratiqués dans les îles des Tuamotu. Par exemple, le pêcheur qui veut avoir une bonne pêche va aller sur un site sacré, hein, un marais, et il va confectionner un poisson sacrificiel qu'on appelle un takikawa, et il va le manipuler de façon à, par exemple, à orienter la tête du poisson sacrificiel vers l'intérieur de la passe pour pouvoir attirer le poisson.
J'imagine que tout était organisé sous forme de clans avec des chefs. Comment ça se passait ?
En Polynésie, ici, on parle plutôt de chefferies, et ces chefferies correspondaient à des éléments du terrain absolument importants, et chaque chefferie avait sa montagne sacrée, où se trouvaient bien sûr les dieux, et puis où on allait enterrer les restes des morts sur les falaises, on allait cacher les ossements. Et puis après, selon une vision pyramidale, on descendait dans les vallées, puis on allait vers la côte où habitaient les chefs, et on arrivait à l'espace lagonaire, qui était lui aussi approprié, pour arriver jusqu'à la partie du récif. Et aujourd'hui encore, la possession de la terre chez les Polynésiens, elle va du sommet de la montagne jusqu'au récif. Ce qui fait naître d'ailleurs des incompréhensions, hein, de la part des revendications foncières, puisque ça va un petit peu à l'inverse de la loi étatique.
Est-ce que l'évangélisation a vraiment éradiqué toutes les croyances ou est-ce qu'aujourd'hui, dans la population, il y a une envie de revendiquer un peu ces croyances traditionnelles ?
Il y a énormément de pratiques syncrétiques, que l'on appelle, c'est-à-dire de mélange d'emprunts de religions traditionnelles sous forme de religion chrétienne.
Est-ce qu'il y a des revendications de revenir par affirmation identitaire à cette religion traditionnelle ?
Effectivement, il y a un renouveau culturel donc qui passe forcément par ces monuments, par ces anciens rites. Il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à vivre, ne serait-ce que... Oui. Il suffit de voir les Polynésiens dans une cascade, dans une vasque d'eau, et vous verrez toute la magnificence de ce culte de l'eau, par exemple.
Et d'ailleurs, pour mettre en avant cette culture, dans cette vallée, il va bientôt y avoir un centre culturel parce que ça fait partie aussi de la reconnaissance de cette culture, notamment vis-à-vis, par exemple, des 80 000 touristes qui viennent par an à Moréa.
Oui, alors, l'avantage de cette vallée, c'est que c'est un domaine public territorial. Un de ses mérites, c'est d'avoir protégé tous ces sites archéologiques que l'on voit ici, des assauts de la modernité, et des constructions, etc. Donc en fait, ça fait un petit peu un réservoir de culture. Aujourd'hui, on montrait seulement les monuments aux touristes. Il y a à peu près 80 000 touristes par an. Ces monuments, c'est bien joli de voir les pierres, etc. Mais il faut quand même qu'ils soient animés par un esprit, par la culture polynésienne. Et effectivement, il va y avoir un centre culturel dans le cadre notamment de plusieurs projets européens, notamment le projet Intègre sur lequel nous travaillons. Et dans ce projet, le directeur du service du développement rural qui gère le domaine a décidé donc avec la population et les concertations qu'il y aurait une surface de terre allouée à la création d'un centre culturel qui va donner de la vie à la vallée et qui va permettre à tout le monde de s'exprimer. Notamment de montrer aux touristes quelque chose que la culture polynésienne est encore bel et bien vivante.
Et aussi de créer des emplois, parce que là, pour le coup, ça profitera directement aux habitants de l'île, contrairement aux grands hôtels qui profitent plutôt aux Occidentaux.
Oui, effectivement, aujourd'hui, la population n'a pas toujours l'impression d'être impliquée dans, en tout cas d'avoir des retombées personnelles du tourisme de masse qu'il y a à Moréa. Et justement, c'est un petit peu ce centre culturel sera une plateforme pour notamment créer des emplois et occuper un bon nombre de jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui dans le village d'à côté.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce programme européen Intègre qui justement montre qu'il y a une reconnaissance de la culture des peuples océaniens ?
Oui, alors ce programme Intègre est un programme de recherche scientifique participative que l'on appelle. C'est-à-dire que, un petit peu à l'inverse de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ce sont des nouvelles méthodes qui vont permettre aux scientifiques d'apporter simplement des outils aux populations pour se réapproprier leur propre gouvernance, et notamment en matière d'environnement. C'est-à-dire que cette conscience environnementale, qui est croissante, bien sûr, face, par exemple, aux problématiques du changement climatique, eh bien, ici, elle est assez importante. Les gens commencent à prendre conscience que le monde change, que l'environnement change, et qu'il va falloir préparer ses enfants à tout ça. Et justement, ces programmes-là permettent à la population, on leur donne des outils de réflexion, et de permettre de retrouver notamment leur identité et de montrer sur une plateforme assez importante qu'ils avaient eux aussi des connaissances. Il n'y a pas que les scientifiques qui ont des connaissances. Il y a ces connaissances vernaculaires, ce qu'on appelle les sciences du concret, que précisait Lévi-Strauss. Eh bien, ces Polynésiens ont des sciences très précises de l'environnement, en tout cas une vision particulière des savoirs autochtones qui sont très précis, notamment par rapport aux plantes, par rapport aux produits de la mer. Et ces choses-là, eh bien, il faut que ça ressorte un jour et ne pas laisser partir les anciens dans leur tombe avec tout leur savoir.
Merci Frédéric.
Merci.
Le projet Intègre, soutenu par l'Union européenne, redonne aux populations locales la fierté de leur identité. Il se décline aussi en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et sur les îles Pitcairn. Restez sur RFI, on se retrouve juste après un bref rappel de l'actualité. À tout de suite.